France Culture, il est 12h30. L'heure pour vous de retrouver le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Subsistera-t-il un accroc dans la belle unité affichée de La République En Marche depuis le début de la législature? Quels stigmates laisseront les débats houleux autour de la loi Asile et Immigration votée hier en première lecture à l'Assemblée? Analyse du début de front, des commentaires sur ce germe du doute instillé les jours derniers dans la majorité. 14 abstentions et un vote contre hier soir dans les rangs de La République En Marche. Ce sera avec Stéphane Robert. Dans la page politique de ce journal, on essaiera également de comprendre pourquoi le gouvernement a montré si peu d'empressement à réagir à l'opération organisée ce week-end par Génération Identitaire. Des militants d'extrême droite qui s'emparent de la frontière dans les Alpes et font mine de la contrôler sans que les autorités n'interviennent, analyse de Frédéric Seyss. Le djihadiste français Salah Abdeslam et son complice tunisien Sofia Nayari ont été condamnés ce matin à Bruxelles à 20 ans de prison pour leur participation à une fusillade avec des policiers intervenus au moment de leur interpellation. Dans son jugement conforme aux réquisitions du parquet fédéral, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu les deux hommes coupables de tentatives d'assassinat à caractère terroriste. Les précisions d'Antoine Marette. La grève à la SNCF, cinquième épisode jusqu'à demain. Est-ce que ce mouvement chez les cheminots peut se prolonger au-delà du mois de juin? Guillaume Pépi, le patron, dit que non. Nous verrons ce qu'en pense l'invité de ce journal. Il s'appelle Didier Aubert, il est secrétaire général de la CFDT Cheminots. Dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Omniprésent dans l'actualité, vous venez d'en évoquer certains, Benoît Bouscarel, le nom irrigue nos vies et nos sociétés. Mais comment lui redonner du sens? Comment éviter la posture ou le repli stérile? C'est à cette question, cette quête que se livre notre invité, le philosophe Vincent Delacroix. Delacroix, il sera avec nous à partir de 12h55.
À tout à l'heure. On n'est ni des salauds, ni des idiots, plutôt des pragmatiques. Le mot est de Élise Fageles, députée de La République En Marche et rapporteure de la loi Asile-Immigration, finalement adoptée hier soir, tard donc, en première lecture à l'Assemblée nationale. Délai d'appel rallongé, assouplissement du délit de solidarité d'un côté, allongement de la durée maximale de rétention de l'autre. Trouver l'équilibre entre fermeté et humanité, comme annoncé vouloir le faire ce gouvernement de pragmatiques, aura nécessité 60 heures de débat. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Benoît.
Du service politique de France Culture, 228 votes pour, 139 votes contre et 24 abstentions, dont 14 venus des rangs de La République En Marche, à quoi il faut ajouter le vote contre de Jean-Michel Clément, député de la Vienne. Alors est-ce que le germe de la division menace la majorité présidentielle à l'aube de cette deuxième année du quinquennat Macron ?
D'un côté, on voit bien que le débat a été compliqué, difficile. Il a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il a fallu tout un week-end supplémentaire pour examiner l'ensemble de cette loi. La droite a fait dans la surenchère, multipliant les amendements pour essayer de durcir le texte. La gauche, elle aussi, a multiplié les amendements pour, au contraire, essayer d'adoucir les dispositions considérées comme étant les plus sécuritaires. Et puis, il y a un certain nombre de députés Modem et La République En Marche qui ont tenté de faire entendre leur voix, eux aussi pour tenter d'adoucir ce texte. Ce qui peut donner l'impression d'une certaine cacophonie, d'une loi accouchée au forceps et du coup d'une majorité fragilisée. Mais d'un autre côté, si on s'en tient au résultat, au vote qui s'est exprimé, on peut difficilement considérer que cette majorité est divisée. Un seul, vous l'avez dit, a voté contre, le député de la Vienne, Jean-Michel Clément. Pour le reste, ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord l'ont dit en s'abstenant. Ils sont 14 chez les marcheurs, 9 au Modem. C'est très peu et on peut même considérer que ce qui s'est passé là est une forme d'aboutissement, de réalisation du macronisme. En ce sens que le groupe à l'Assemblée dirigé par Richard Ferrand a réussi à faire vivre avec ce texte en son sein à la fois une sensibilité de droite et une sensibilité de gauche, à la fois une majorité et son opposition. Et à la fin, on aboutit à un accord sur un texte de compromis à peu près acceptable par tout le monde. Dans ce schéma-là, les oppositions à droite comme à gauche apparaissent comme des caricatures d'elles-mêmes dans une opposition obstinée et systématique. Le macronisme, à contrario, semble se positionner parfaitement au centre comme le seul espace politique susceptible de réconcilier la société française avec elle-même.
Merci Stéphane Robert. Parmi les réactions au vote de ce texte hier, celle de Rachida Dati, députée européenne et ancienne garde des Sceaux, pour qui la loi telle qu'elle a été votée en première lecture ne répond pas absolument au problème de la maîtrise des flux migratoires. Et c'est dans ce contexte politique agité que le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire a choisi de faire parler de lui en organisant ce week-end une hallucinante opération de communication au col de l'Échelle. C'est dans les Hautes-Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie. Quelques militants ont matérialisé la frontière entre la France et l'Italie et ils l'ont bloquée quelques heures à grand renfort d'hélicoptères loués pour l'occasion. L'opération n'était destinée qu'à marquer les esprits et à embarrasser le gouvernement. conférence qui a, semble-t-il, parfaitement fonctionné. Frédéric Saïs.
Une opération de communication. Voilà comment l'entourage de Gérard Collomb décrit ce matin cette manifestation du groupe Génération Identitaire. Sous-entendu, inutile de donner à cette initiative davantage d'écho que ce que représente ce groupuscule. On sent le dilemme du ministère de l'Intérieur. Fallait-il faire intervenir les forces de l'ordre au risque d'entrer dans le jeu précisément de cette communication, d'offrir les images que ce groupe attendait? On imagine aisément ensuite les messages sur les forces de l'ordre qui délogent des militants au lieu de s'occuper des frontières. Autre argument avancé par le ministère de l'Intérieur, aucun fait délictuel n'a été commis, ni dégradation ni violence, d'où la décision de ne pas intervenir. Aucun délit, mais ne s'agissait-il pas d'une manifestation non autorisée? À cette question, le ministère renvoie vers la préfecture qui n'a pas répondu à nos demandes d'entretien. Quant à la décision d'envoyer des renforts sur place, elle répond, selon le ministère, à l'intrusion de groupes antifascistes italiens et de militants qui ont traversé la frontière avec des migrants. Dans un communiqué, Gérard Collomb semble renvoyer dos à dos les deux manifestations du week-end. Il condamne, je cite, « l'ensemble des provocations, gesticulations et incidents dont sont à l'origine des groupes d'activistes d'ultra-droite et d'ultra-gauche ». Fin de citation. Une unité de gendarmes mobiles et une demi-unité de CRS ont été envoyées sur place.
Frédéric Saïs, la fin d'une séquence électorale avec le résultat du deuxième tour de l'élection législative partielle dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. La députée La République En Marche, Samantha Cazebonne, a regagné le siège qu'elle avait conquis l'an dernier avant que son élection ne soit invalidée. Le campus de l'université Paul Valéry de Montpellier a été investi ce matin par la police qui avait pour objectif de libérer les lieux, objectif facilement atteint en cette période de vacances sur un campus totalement désert. Il n'y aura pas d'appel du procès Tarnac, c'est ce qu'annonce ce matin le parquet de Paris, qui a décidé, 10 ans après les faits, d'en rester là. Après la relaxe quasi générale des 8 prévenus survenus il y a 10 jours, un seul des co-prévenus avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour tentative de falsification de documents. Les principaux acteurs du dossier, Julien Coupa et son ancienne compagne Hildune Lévy, avaient eux été relaxés, faute de preuves. L'usine du groupe français Lafarge en Syrie n'était probablement pas qu'une source de financement pour l'organisation État islamique du temps de son existence. Elle aura aussi, visiblement, servi de source d'information pour le renseignement français, voire pour l'armée, voire pour l'État. En tout cas, ce que révèle le journal Libération ce matin, qui a eu accès au dossier d'instruction du procès du cimentier Lafarge, englué dans cette affaire depuis la fin de l'État islamique. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
L'affaire pourrait n'être donc plus seulement judiciaire, mais prendre les atours d'une affaire d'État.
Et ce qui nous fait basculer dans une autre dimension, ce sont ces nouveaux PV d'audition dévoilés par Libération et qu'ont également pu lire des journalistes du Monde. Ces PV, ce sont ceux de Jean-Claude Veillard, l'ancien directeur sûreté de Lafarge, ancien commando marine. Cet homme a été mis en examen depuis décembre dernier, comme 5 autres dirigeants du cimentier, pour avoir versé des fonds importants à plusieurs groupes armés, dont l'État islamique, entre 2012 et 2014, quelques mois donc avant les attentats qui ont ensanglanté Paris. Entendu de nouveau, les 3 et 12 avril dernier, par la juge d'instruction Charlotte Bilger, Jean-Claude Veillard doit s'expliquer sur ses nombreux contacts avec les services de renseignement, mails, rencontres, à 33 reprises. Entre 2012 et 2014, son agenda le révèle, Jean-Claude Veillard a rencontré les services de renseignement extérieur, DRM, Direction du renseignement militaire et DGSE, et intérieur, DGSI, rapporte Libération. À leur demande, précise-t-il. Chaque mois, il fournissait aussi une carte actualisée de la région avec les positions des groupes terroristes, celles des barrages. Nous sommes là à Jabalia, dans le nord de la Syrie, en pleine zone de guerre entre Kobané et Raqqa. En réponse à la juge, le directeur sûreté du cimentier estime même être la seule source d'information pour la DGSE dans cette partie de la Syrie. Et il le dit à 2 reprises, très clairement, ses contacts des services de renseignement français étaient au courant de tout. Tout, c'est-à-dire bien sûr les informations qu'ils pouvaient collecter sur les groupes armés, mais aussi les versements de Lafarge à l'État islamique afin de continuer à faire fonctionner l'usine, de permettre le passage des salariés, des fournisseurs, des matières premières sans encombre au barrage. Le but de ces versements, ne pas perdre un gros investissement dans le nord de la Syrie, être là au moment de la reconstruction du pays, c'est du moins l'interprétation qui dominait jusqu'à présent, et le scandale venait du fait que Lafarge ait mis en danger son personnel et négocié avec des groupes terroristes dans un but lucratif. massif. Mais cette dernière audition ouvre notre champ d'investigation. L'État aurait-il encouragé Lafarge à rester dans le but de collecter ces renseignements précieux sur les activités de l'EI dans la région et sur les positions des différents groupes armés? Et jusqu'où l'information selon laquelle Lafarge payait ces groupes terroristes a-t-elle été partagée? L'Élysée, le Quai d'Orsay, la Défense? J'ai donné toutes les informations, répète Jean-Claude Veillard à la juge d'instruction.
Merci Marie-Pierre Véraud. Salah Abdeslam a sans surprise été reconnu coupable ce matin de tentative d'assassinat sur des policiers belges. Les faits remontent à son interpellation il y a un peu plus de 2 ans à Molenbeek. Alors en cavale, le dernier survivant des commandos islamistes qui avaient frappé Paris et Saint-Denis en novembre 2015 avait tenté d'échapper aux policiers. La fusillade qui avait suivi n'aura hélas été qu'un prélude aux attentats de Bruxelles survenus 4 jours plus tard. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
20 ans de prison ce matin prononcé contre Abdeslam et contre Sophia Naya, son co-prévenu, jugement prononcé en l'absence des principaux concernés.
Et l'un comme l'autre ont donc été condamnés à des peines sévères, les peines maximales, 20 ans de prison pour leur participation à la fusillade avec des policiers 3 jours avant leur interpellation. C'est un jugement conforme aux réquisitions du parquet fédéral. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu les 2 prévenus coupables de tentative d'assassinat à caractère terroriste. Le contexte était celui des attentats de Paris, relève le jugement. L'enquête avait abouti ce jour-là sur un logement conspiratif du groupe djihadiste à l'origine de ces attaques et les membres présents dans l'appartement étaient armés, portant des gilets pare-balles. Leur ancrage dans le radicalisme ne fait aucun doute, conclut le tribunal. Les 2 hommes ont aussi été condamnés à dédommager leurs victimes à hauteur d'environ 500 000 euros, notamment l'État belge et un policier grièvement blessé ce jour-là. L'avocat Sven Marie doit désormais donner connaissance du jugement à Salah Abdeslam avant de décider d'un éventuel appel. Mais son client s'est montré très peu coopératif pendant la semaine de procès et on imagine mal ce qu'un appel apporterait de nouveau pour sa défense. Et puis le procès de Bruxelles n'est qu'un prélude judiciaire pour Salah Abdeslam. Le jeune homme est également poursuivi pour les attentats du 13 novembre en tant que seul survivant présumé du commando. Ce grand procès très attendu pourrait avoir lieu vers 2020. Le procureur de la République de Paris, François Molins, espère clôturer le dossier d'ici 1 an.
Merci Antoine Maret. L'antisémitisme est-il aujourd'hui en France une quasi-exclusivité des quartiers populaires et d'une jeunesse de culture musulmane, coupablement soutenue par une partie de la gauche pour des raisons de clientélisme électoral? C'est ce qu'il faut comprendre de la tribune Choc, publiée hier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Dans un débat déjà ancien, le point de vue n'est pas nouveau. Bonjour Charlotte Lalanne.
Bonjour.
Mais il semble, dans cette tribune écrite par Philippe Val et préalable à la publication d'un livre mercredi, que les nuances de rigueur, quand il s'agit par exemple de parler d'épuration ethnique, aient été quelque peu oubliées. C'est en tout cas ce que pensent les intellectuels musulmans que vous avez contactés.
Oui, notamment sur cette expression, l'antisémitisme musulman, la plus grande menace qui pèse sur l'islam du 21e siècle, selon les signataires de la tribune. Cela ne rime à rien, tranche ce matin Tarek Oubou, le recteur de la grande mosquée de Bordeaux. Attribuer l'antisémitisme à l'islam est presque un blasphème, poursuit-il, puisque les 2/3 des prophètes du Coran sont des juifs. Une erreur intellectuelle monumentale selon Tarek Oubou, la même, dit-il, que commettent nos jeunes qui n'ont aucune culture religieuse. Tout essentialisme est réducteur, c'est ce qu'affirme également le philosophe et théologue Ghaleb Bencher. Nous nous sommes égosillés, m'a-t-il dit, depuis des années pour dire que les incidences sociales, morale de tels passages violents du Coran doivent être frappés de caducité. Mais cet islamologue regrette la stigmatisation des musulmans.
On dit, non sans raison peut-être, qu'il y a trop de visibilité, de mœurs, de signes halogènes, incongrus au sein du paysage national à cause de cette appartenance confessionnelle. Donc il faut que vous vous confondiez d'une manière caméléonesque dans ce paysage, au même moment où on demande à cette partie-là de se déterminer et d'agir comme musulman. Ces injonctions n'arrangent pas nos affaires, au contraire, nous avons besoin aussi de soutien dans la froideur d'esprit pour que nous entreprenions d'une manière déterminée ce travail que j'ai toujours appelé celui de la refondation de la pensée théologique islamique. Maintenant, à supposer par extraordinaire qu'une telle chose soit faite, il y aura toujours des illuminés, exaltés, égarés, qui agiront d'une manière condamnable et répréhensible, tout en se prévalant ou pas de versets ou de passages coraniques. Donc c'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas suffisant.
Insuffisant, oui, car le vrai chantier, c'est l'éducation à l'altérité, notamment à l'altérité confessionnelle. Une éducation qui concerne toute la nation, estime encore Khaled Bencher, indissociable aussi d'une politique globale, sociale, éducative dans les territoires abandonnés de la République.
Merci Charlotte Lalanne, le nouvel antisémitisme en France. C'est un ouvrage à paraître mercredi donc aux éditions Albin Michel. Emmanuel Macron est attendu aux États-Unis dans la journée où il sera reçu en grande pompe par Donald Trump. C'est une visite d'État qui est organisée sur 3 jours. Le défi pour le président français étant d'obtenir quelques concessions ou quelques débuts d'inflexion sur les dossiers du moment, comme le nucléaire iranien, sans paraître courtiser trop directement le président américain. La contestation anti-gouvernementale ne faiblit pas en Arménie, où des centaines de manifestants, dont de nombreux étudiants, ont défilé encore ce matin dans la capitale Yerevan, malgré l'interpellation la veille du principal opposant, Nicole Pachinian. Les manifestants exigent la démission de l'ancien président Serge Sirkissian, accusé de s'accrocher au pouvoir. Préserver les ressources et les matières premières, recycler, réutiliser, réparer, voilà quelques-uns des commandements de l'économie circulaire qui vise à concilier richesse et environnement. Une fois n'est pas coutume, le gouvernement s'est attelé à la question et il présente ce matin sa feuille de route sur l'économie circulaire. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Benoît.
Sur certains des points abordés ce matin, la France est plutôt pionnière. Sur d'autres questions, comme sur celle du recyclage, on est un peu à la traîne.
Oui, même si le pays est loin d'être mauvais élèves en la matière, les associations s'alarmaient l'année dernière d'une stagnation, voire d'une baisse du recyclage en France, notamment à cause de l'entrée sur le marché de nouveaux matériaux non recyclables, mais aussi à cause d'une baisse significative des efforts des entreprises. Il faut savoir que si la France produit 35 millions de tonnes de déchets ménagers par an, les entreprises en produisent, elles, 10 fois plus, 350 millions de tonnes. Le gouvernement a donc dévoilé une série de mesures ce matin, parmi elles, la création de 4 nouvelles filières de recyclage. Les jouets, dont 99% finissent actuellement dans des centres de stockage. Le matériel de bricolage également, celui de jardinerie. Enfin, le matériel de sport. Les entreprises et les distributeurs, ce qu'on appelle les metteurs sur le marché de ces produits, seront donc, eux aussi, soumis à une obligation de collecte sélective. Les opérations liées au recyclage verront également leur TVA diminuer à 5,5%. La taxe sur les activités polluantes sera, elle, augmentée. Les éco-organismes financés par les entreprises seront sanctionnés s'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Une façon d'obliger les entreprises à prendre leurs responsabilités. Enfin, un nouveau logo, le trimant, remplacera le point vert qui indiquait seulement si le fabricant payait ou non une taxe recyclage. Ce trimant, un petit bonhomme et 3 flèches, indiquera lui si le produit peut ou non se recycler. Des mesures plutôt vues d'un bon œil par les acteurs du secteur qui pointent tout de même le manque de volontarisme sur le début de la chaîne. Certes, il faut recycler, mais c'est dès la conception du produit qu'il faudrait faire plus d'efforts. En résumé, éco-concevoir des produits qui puissent plus facilement se recycler.
Merci Anne-Laure Chouin. Deux mots sur l'ouverture aujourd'hui à Lille du congrès de Force Ouvrière. La 3e centrale syndicale française va tourner la page. Jean-Claude Mailly, très contesté en interne, le secrétaire général de FO, passera la main à son successeur désigné, Pascal Pavageau, seul candidat. Ce qui nous amène à la page sociale de ce journal, 5e épisode de la grève perlée à la SNCF. Depuis hier soir, 40% des TER et des trains en région circulent, 35% des TGV, 30% des intercités. D'après un pointage communiqué à l'instant par la direction de la SNCF, 17,5% des cheminots seraient en grève ce lundi, un taux en baisse par rapport à la grève précédente. Cette grève s'érode lentement, ce sont les mots de Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, hier. On verra dans un instant ce qu'en pense notre invité. À noter que, coïncidence des luttes, aujourd'hui les syndicats d'Air France ont choisi les mêmes dates, aujourd'hui et demain, pour leur nouveau mouvement. Air France qui prévoit, d'après la direction, d'assurer 3/4 de ses vols demain. La séquence interview de ce journal avec Hakim Kasmi et son invité Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots. Bonjour Hakim.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bonjour Didier Aubert.
Oui, bonjour à tous.
Alors, on vient d'avoir les chiffres, 17,5% de personnel grévistes à la SNCF. Assiste-t-on à une érosion du mouvement de grève, comme le prétendait hier M. Pépi?
En tout cas, notre détermination s'érode pas. Bon, je reviendrai pas sur la polémique liée aux chiffres de grévistes, y compris dans la présentation des graphiques tels que le présentait la SNCF. Il est clair qu'une chose, c'est qu'effectivement, les cheminots, qu'ils soient au travail ou qu'ils soient en grève, sont très déterminés à défendre leur position par rapport aux attaques sans précédent qui sont faites sur le système ferroviaire français. Et que, globalement, aujourd'hui, on peut considérer que les organisations syndicales sont suivies et sont soutenues par 90% des cheminots.
Alors justement, les cheminots, avez-vous des remontées par rapport au nombre de cheminots qui sont en grève aujourd'hui, notamment les roulants ?
Bah, sur les, enfin, de tradition, même si effectivement on ne peut pas concevoir qu'un conflit ne soit assuré que sur les roulants, on sait que c'est les roulants qui ont les conséquences de leur grève la plus visible, puisque c'est eux qui assurent le nombre de circulations. Et on voit que le nombre de circulations, avec toutes les bonnes volontés que peut faire la SNCF en mobilisant un nombre de son encadrement, a du mal à faire circuler ses trains.
Alors, sur le fond du dossier, on a le sentiment qu'en ce moment, le dialogue est très compliqué entre vous, Guillaume Pepy, et le gouvernement. Vous avez interrompu les discussions avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports, jeudi dernier. Vous avez demandé à rencontrer directement et discuter avec Édouard Philippe, le Premier ministre, ce qu'il a refusé. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout est bloqué et que finalement, Emmanuel Macron dit ce qu'il va faire. Il l'a encore dit à la télévision américaine, il fera passer toutes les réformes. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ben, on répond de toute manière que c'est devenu une habitude de ce gouvernement de communiquer par médias, parce que nous l'avons interpellé, y compris par courrier. Ce courrier lui a été adressé. À ce jour, nous n'avons pas de réponse officielle de Matignon concernant notre demande de rencontre. Donc je ne ferai pas de commentaires sur les annonces par médias interposées. Il a pris cette habitude-là, la fidélisation du fret, la date de suppression du statut pour nos entrants. Nous avons un gouvernement de communication. On préfère avoir un gouvernement de fond qui connaisse ces dossiers. Et le problème, c'est qu'ils sont loin de connaître les dossiers. Ils ont voté une loi. On a vu que, y compris sur les dispositions financières, il n'y a qu'à regarder sur la chaîne parlementaire les conditions dans lesquelles s'est tenue la commission des finances traitant du traitement de la dette. C'est édifiant. Et que derrière ça, effectivement, sorti des annonces et des têtes de gondole et des annonces présidentielles et de Matignon, eh bien derrière, dans ce projet, il n'y a rien de construit. Et aujourd'hui, on a besoin des organisations syndicales à travers des amendements pour construire le projet du gouvernement. On n'a jamais vu ça.
Alors, justement, Guillaume Pepy, toujours lui, le PDG de la SNCF, indiquait hier qu'il allait faire un geste, notamment avec la fin du statut à partir du 1er janvier 2020 pour les nouveaux entrants. Qu'en compensation, il augmenterait les nouveaux entrants à la SNCF et de dire aussi que vous, les syndicats, vous auriez peur de l'arrivée de la concurrence. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est la provocation pour vous ?
Mais c'est Monsieur Pepy est dans l'agitation et l'affolement, parce que nous doutons qu'il est à l'origine, ou un de ceux qui sont à l'origine de cette réforme du ferroviaire, et que globalement, le président se trouve pris à son propre jeu d'arroseur arrosé ou de pyromane pompier, et qui vise effectivement maintenant, il ne sait plus comment répondre aux revendications des cheminots et aux problèmes qu'engendre cette réforme et cette loi qui a été votée à la va-vite par l'Assemblée nationale.
Alors aujourd'hui, pardon Didier Aubert, mais le temps nous est compté, mais aujourd'hui, vu l'état du dialogue social entre vous, le gouvernement et la SNCF, peut-on imaginer que la grève eh bien, continue au-delà du 28 juin pendant les vacances d'été ?
Je pense que tout gouvernement... toute direction et tout gouvernement ayant le sens des responsabilités et commencerait et rattraperait le temps perdu en se mettant autour d'une table pour discuter et négocier. Or aujourd'hui, force est de constater que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc j'espère qu'on n'ira pas en juillet et en août en conflit, mais si ça devait l'être, on ne l'écarte pas, mais ce n'est pas notre objectif premier d'aujourd'hui. Notre objectif premier d'aujourd'hui, c'est de se remettre autour d'une table et d'aborder des sujets de fond.
Mais le dialogue reste compliqué, ça fait plusieurs semaines. Vous allez même, vous, la CFDT, intenter une action judiciaire par rapport au fait que la SNCF ne veut pas payer les jours de repos, estimant que les salariés grévistes n'ont pas à être payés. On voit bien, le dialogue social se dégrade aujourd'hui à la SNCF, entre vous et le gouvernement et la SNCF.
Ce sera la dernière question.
Non, mais je crois qu'à un moment donné, l'action judiciaire, oui, elle va... on a déjà plusieurs éléments. Il y a eu recours à l'inspection du travail de PACA, enfin de Provence-Côte d'Azur, qui dit qu'effectivement la SNCF n'a pas le droit de faire ça, mais ce n'est jamais qu'un avis de l'inspection du travail. Notre recours, il est déposé au tribunal de Saint-Denis, parce que nous considérons que ce sont des pressions pour inciter les gens à ne pas faire grève en leur retenant plus de salaire que ce que le prévoit la loi. Alors ça, on est sur la forme, mais derrière ça, l'important, c'est quand même, faut pas perdre de vue, quel était l'objectif de cette réforme ? C'était de développer le transport du ferroviaire dans ce pays, et on en est où là-dessus ? On en est où sur le désendettement ? On en est où sur le financement des infrastructures ferroviaires ? Je vous renvoie à la commission des finances de l'Assemblée nationale, où ça a été l'affolement général, où les dossiers ne sont pas prêts. Est-ce que c'est ça qui va faire arriver les trains plus à l'heure ? Est-ce que c'est ça qui va moderniser les installations et augmenter le nombre de trains ?
On a bien compris, Didier Aubert, qu'un certain nombre de questions restaient posées. Merci à vous, secrétaire général de la CFDT Cheminot. Merci d'avoir répondu dans ce journal de midi et demi aux questions d'Hakim Kasmi. Merci, Hakim. Un temps plus frais aujourd'hui et plus changeant. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà remarqué, avec des averses orageuses passagères prévues du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est dans l'après-midi. L'Alsace, la Bourgogne, Franche-Comté, le Massif central et le Lyonnais resteront exposés à un temps menaçant avec des averses fréquentes et orageuses. Température maximale en baisse, notamment sur le nord, 15 à 17 degrés, pas plus, près de la Manche. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard. Prochaine édition sur France Culture à 18h avec Aurélie Kiefer.